Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, souvenez-vous de vos repas pris à la cantine. Les pâtes qui baignent dans l'huile, les épinards hachés qui n'inspirent pas l'appétit, les pomelos pas mûrs ou encore le riz trop cuit. Aujourd'hui, il semble pourtant que nos souvenirs n'aient plus grand-chose en commun avec les repas proposés à nos enfants. La qualité nutritionnelle des repas a été améliorée dans les cantines scolaires depuis 2001. Les distributeurs de boissons et de bars chocolatés ont été supprimés des établissements scolaires en 2004. L'école et la cantine travaillent sur l'éducation au goût. Et suite au Grenelle de l'environnement, l'État a fixé un objectif de 20% de nourriture issue de l'agriculture biologique dans la restauration collective d'ici 2012. Mais dans le même temps, paradoxalement, l'obésité infantile se développe. Ils étaient 3% d'enfants en surpoids en 1960, ils sont désormais 20% en 2010, soit un enfant sur 6 environ. On observe également chez ces enfants une nette augmentation du diabète de type 2, diabète sucré. Alors de nouveau, la question se repose, question somme toute récurrente, existe-t-il un lien de cause à effet entre la cantine et l'obésité infantile? Peut-on prévenir des risques d'obésité chez l'enfant et cette prévention fonctionne-t-elle vraiment? C'est ce que nous allons voir en compagnie de notre invité pour cette nouvelle émission Éclairage, Claude Jaffiole, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes professeur honoraire à la faculté de médecine de Montpellier, ancien chef du service d'endocrinologie à l'hôpital La Péronie à Montpellier toujours, membre de l'Académie nationale de médecine et actuellement consultant à la Languedoc Mutualité à Montpellier. Peut-être pourrions-nous commencer par quelques chiffres. Actuellement, 6 millions d'enfants prennent leur repas à la cantine le midi avec une moyenne de 140 repas par an par enfant, ce qui leur apporte environ 12% des apports énergétiques. Alors en ce sens, et au vu de ces premiers chiffres, l'école et la cantine ont-ils un rôle à jouer dans l'apprentissage de l'équilibre alimentaire?
Eh bien, je crois qu'on peut répondre par l'affirmative, et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que les enfants qui mangent en cantine sont issus de familles qui sont parfois défavorisées, avec actuellement un taux de précarité qui malheureusement croît en France, familles qui ne peuvent, n'ont pas toujours les moyens financiers adéquats pour assurer une nourriture de bonne qualité, répondant tout au moins aux normes du Plan National Nutrition Santé, et le fait que les enfants mangent à midi en cantine, même s'il est vrai que ça ne représente qu'une partie de leur alimentation quotidienne, est somme toute un bénéfice. La deuxième raison est que la cantine joue un rôle pédagogique. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est non seulement de bien nourrir les enfants, mais de leur apprendre à bien se nourrir. Il y a une nuance. Donc, vous voyez, nourrir les enfants à midi, c'est très bien, bien les nourrir à midi, mais également leur apprendre à bien se nourrir pour qu'ils transmettent le message à leur famille. Et ça, c'est un point essentiel. Donc, je vois la cantine à la fois comme un lieu où les enfants recevront une alimentation de qualité, ce qui, je crois, se fait dans la plupart des cantines, qui s'efforcent avec les chefs d'établissement et les responsables des achats de se rapprocher de ce qui est conseillé par le Plan National Nutrition Santé, mais en même temps un rôle pédagogique, et là la cantine me paraît jouer un rôle très important.
Alors faut-il différencier le rôle de l'école du rôle de la cantine ?
Alors, je crois qu'il ne faut pas les dissocier. Et je pense que le problème de la nutrition a acquis une telle importance dans notre société de consommation, dans notre société occidentalisée, où vous le voyez, l'obésité et le diabète sont en poussée avec l'hypertension artérielle également, qu'il faut des lieux privilégiés où les enfants peuvent acquérir de bonnes habitudes. Et ces bonnes habitudes, ils les acquérons à la fois à la cantine, et je viens de donner mon point de vue, mais également à l'école, car il faut que dans les programmes scolaires, il y ait un enseignement simple, pratique, de la nutrition qui soit fait par les enseignants. Donc vous voyez, je vois l'école plutôt comme un centre de gravité pour un bon équilibre nutritionnel, assuré à la fois par, je dirais presque des travaux pratiques, c'est la cantine, et par une formation théorique de la part des enseignants.
Vous parlez d'acquérir justement cette notion d'équilibre alimentaire. Je crois qu'il y a une circulaire en 2001 qui est apparue pour améliorer les repas dans les cantines, et cela sans surcoût. Après, il y a donc, vous en avez parlé, l'éducation au goût. Et là, c'est quand même pas gagné, puisqu'actuellement, quand vous retrouvez les repas consommés après, justement, vous sortez de la cantine, vous voyez qu'il y a beaucoup de déchets. Très peu de repas sont consommés dans leur totalité.
C'est exact. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants, lorsqu'ils arrivent en début d'année scolaire à l'école, ont des habitudes héritées des traditions familiales, ou bien héritées, disons, d'habitudes qu'ils ont prises à l'extérieur. Et il est certain que c'est bien classique, les enfants aiment les frites, les pâtes, et apprécieront moins le poisson, les légumes verts, etc. Mais justement, pour rester fidèle aux recommandations nutritionnelles actuelles, il faut arriver à faire changer cette façon de juger le goût et la qualité des aliments. Et là, la cantine peut jouer un rôle important.
Alors, justement, vous mettez des carottes, Vichy et des frites. Je pense que vous aurez davantage d'enfants qui prendront des frites plutôt que des carottes Vichy. Alors, n'est-il pas plus important que les enfants mangent tout court plutôt qu'ils ne mangent rien ?
Oui, mais je crois qu'il ne... Vous savez, ce qui est mauvais pour les enfants, comme d'une manière générale dans la vie, c'est d'être très directif, absolutiste et autoritaire. Dans la vie, il vaut mieux convaincre que diriger. Il vaut mieux donner des bonnes habitudes acquises sous l'effet de la persuasion plutôt que sous l'effet du bâton. Et ça, c'est une question pédagogique.
Ces questions, justement, d'action éducative concernant la restauration scolaire ne sont pas nouvelles. Déjà, je crois, en 1982, on se posait déjà des questions. Comment ça se fait que ce sujet soit à ce point récurrent ? C'est parce que, justement, on n'arrive pas à régler le problème ?
Non, je crois qu'il y a eu quand même des progrès qui ont été faits. Et en 1982, d'abord, le taux d'obésité était moins important. Et actuellement, il y a une prise de conscience des pouvoirs publics et des gens à travers la médiatisation de ce problème qui sont convaincus que l'épidémie d'obésité et de diabète que vivent nos sociétés occidentales, et il faut le dire également, ce n'est pas peut-être l'objet de la conversation que nous menons, les pays en développement, là aussi, c'est très important, qu'il s'agisse de l'Asie, de l'Inde, de l'Afrique. Eh bien, actuellement, il y a un problème mondial de santé publique à travers cette expansion dramatique de ces maladies qui ont des conséquences extrêmement fâcheuses. Il ne faut pas oublier que l'obésité de l'enfant fait le lit de l'obésité de l'adulte, mais aussi du diabète, de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires. Et que s'attaquer à l'obésité infantile est fondamental pour éviter, pour essayer de casser cette poussée de diabète et d'obésité que l'on observe chez l'adulte actuellement. Donc il y a quand même une prise de conscience de ce problème. Et cette prise de conscience fait que les gens, je pense, de plus en plus sont, grâce aux efforts médiatiques, sont de plus en plus convaincus qu'il est souhaitable qu'ils changent leur hygiène de vie et qu'ils modifient le comportement alimentaire et physique des enfants.
Alors, si vous le voulez bien, on va laisser de côté pour l'instant l'aspect restauration scolaire et on va se pencher un peu plus sur justement l'obésité et le diabète chez les enfants. Quand parle-t-on de surpoids et d'obésité chez un enfant ? Parce que je ne pense
Alors,
pas qu'on utilise...
Alors, ça dépend de l'âge. C'est-à-dire que chez l'enfant, jusqu'à l'âge de 10-11 ans, il y a des courbes de croissance qui sont établies et ce sont ces courbes de croissance qui font référence.
Que l'on retrouve dans les carnets de santé.
Tout à fait. Et après l'âge de 10-12 ans, il y a deux notions qui sont importantes. C'est ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, qui est un calcul simple qui consiste à diviser le poids par la taille au carré, et la mesure du tour de taille, parce que l'on sait actuellement que la graisse accumulée dans la région abdominale est beaucoup plus mauvaise, si vous voulez, pour employer un terme vulgaire mais compris par tout le monde, que la graisse diffusée à tout le corps. Donc il y a deux paramètres importants, c'est l'indice de masse corporelle et d'autre part le tour de taille. En ce qui concerne le diabète, eh bien, c'est la mesure de la glycémie. Mais là, il faut bien souligner quelque chose, c'est que l'on est diabétique à partir d'1,26 g de glycémie à jeun. Pourquoi 1,26 g ? On peut se dire pourquoi pas avoir pris 1,25 g ou 1,30 g ? Bien parce qu'à partir de calculs statistiques, on a montré qu'à ce seuil, il y a un risque de développement de complications vasculaires. Mais l'on vient actuellement de souligner que les taux de glycémie inférieurs à 1,26 g et supérieurs à 1 g correspondent à ce qu'on appelle les hyperglycémies intermédiaires, et que ces hyperglycémies intermédiaires doivent être prises en considération parce qu'elles sont souvent annonciatrices de la survenue ultérieure d'un diabète sucré et peuvent peut-être même être génératrices de complications. Donc voilà la réponse à votre question. À partir de quand est-on trop gros et à partir de quand est-on diabétique? Alors en ce qui concerne l'indice de masse corporelle, on considère que l'on est en surpoids lorsque le calcul montre un chiffre entre 25 et 30 d'indice de masse corporelle. Au-delà de 30, on est obèse. Et à partir de 40, il s'agit de l'obésité morbide, qui est heureusement en France assez rare. On en voit beaucoup plus fréquente aux États-Unis, beaucoup plus fréquente dans certaines régions telles les îles du Pacifique, l'Inde, certains pays africains, et qui alors est grevée par des comorbidités très importantes et des accidents cardiaques, vasculaires, etc.
Alors revenons à ces enfants. Un enfant qui peut paraître bien en chair vers 12-13 ans, on sait aussi qu'il va grandir et peut-être qu'il est susceptible de grandir en presque un an et du coup va conserver son poids tout en prenant une taille beaucoup plus importante.
Oui, alors on sait que lorsque l'obésité chez l'enfant doit être considérée à deux périodes. Il y a l'obésité du très jeune enfant et même le surpoids à la naissance. Vous avez des enfants trop gros à la naissance. Ces enfants trop gros à la naissance doivent être surveillés parce qu'on sait qu'on appelle ça la macrosomie, l'excès de poids. On sait que ces enfants risquent d'être ultérieurement obèses, mais ce n'est pas absolument certain. Et ensuite, il y a l'obésité de l'adolescent. Et alors ça, on sait que l'obésité de l'adolescent est un facteur préoccupant pour son avenir, parce qu'il est rare qu'un adolescent obèse, si on ne prend pas les mesures adéquates pour lui faire perdre ses kilos en excès, risquera fort de conserver son excès de poids à l'âge adulte.
Alors, quelles sont les raisons de ce surpoids chez l'enfant adolescent? C'est trop de sel, trop de graisse, trop de sucre?
Alors, les raisons, il y a deux raisons. Il y a un facteur génétique. Mais ce facteur génétique est bien connu, il est connu depuis la plus haute antiquité. On sait très bien qu'il y a des familles d'obèses, et on sait également que les jumeaux univitellins ont le même parcours pondéral et morphologique au cours de leur vie. Donc il y a des arguments pour être convaincu que la génétique joue un rôle. Mais elle n'est pas seule, la génétique finalement c'est le terrain. Et le facteur révélateur c'est l'environnement. Et il y a deux grands facteurs d'environnement qui jouent. C'est premièrement l'alimentation. Et l'alimentation telle que nous la connaissons occidentalisée, on peut en parler si vous voulez, avec toutes les erreurs alimentaires qui sont responsables. Et la sédentarité, c'est-à-dire le manque d'activité physique. C'est-à-dire que vous avez une inadéquation entre des apports alimentaires trop riches, mal équilibrés, mal conçus, et un défaut de dépenses caloriques parce que ces adolescents sont devenus sédentaires pour des tas de raisons.
Une passivité, conséquence de, par exemple, rester trop.
Alors, si on parle de l'alimentation, il suffit de regarder ce que sortent les gens des supermarchés. Regardez les casiers des supermarchés, ce sont souvent des aliments à haute densité calorique, riches en matière grasse, et en matière grasse de mauvaise qualité, trop d'acide gras saturé. Les graisses sont un facteur obésogène absolument reconnu. Deuxièmement, trop d'aliments sucrés. Alors là, on pourra en parler très longtemps. Parmi les aliments sucrés, vous avez des aliments qui sont reconnus comme extrêmement dangereux, en particulier les boissons sucrées, l'abus des boissons sucrées, les biscuits, etc. Et j'en passe, on pourrait en parler très longtemps. Vous avez également les aliments trop riches en sel et l'abus de sel. Vous avez l'alimentation rapide. Les jeunes qui, dans les fast-foods, mangent très vite, debout, n'importe quoi. Et ce type d'alimentation contribue bien entendu à la prise de poids. Et c'est là, je reviens à la cantine, que la rééducation du goût, la rééducation alimentaire, complétée par un enseignement nutritionnel fait par les enseignants, peut s'avérer bénéfique. En ce qui concerne l'exercice physique, les causes de sédentarité sont multiples. On peut énumérer beaucoup d'éventualités. Les enfants qui regardent la télévision. Il y a des études qui ont été faites très documentées, en particulier en Angleterre, qui ont montré qu'il y a une parfaite corrélation entre le temps passé devant l'écran de télévision, devant les jeux vidéo, devant l'ordinateur et la prise de poids. Vous avez un autre facteur. Actuellement, une course au diplôme qui fait que les enfants et les étudiants sont obligés de travailler dur pour arriver à passer leurs examens. Cela vaut surtout pour des adolescents plus âgés qui préparent par exemple les concours aux grandes écoles, des choses comme ça, et qui n'ont absolument pas le temps de faire du sport parce qu'il y a une lutte acharnée pour passer les concours. C'est un exemple. Vous avez un autre facteur qui joue, c'est dans certaines villes le manque d'équipements sportifs, l'absence de pistes cyclables, et on pourrait multiplier comme ça les exemples, voyez-vous, qui font que la sédentarité est actuellement un mal de société. Et d'ailleurs, on voit ce phénomène de façon caricaturale dans les pays en développement, où vous aviez des populations entières qui vivaient dans les zones rurales, qui avaient une alimentation à partir des produits naturels produits localement, riches en fibres, en végétaux, pauvres en matières grasses ajoutées, etc., et sans sucre rapide, et qui se dépensaient physiquement énormément. Quand ces populations, dans beaucoup de pays africains, par exemple, ou du sud-est asiatique, ont migré vers les villes, phénomène actuellement préoccupant, eh bien, ils vont vers une alimentation de type occidentalisé et vers la sédentarité. Et on assiste à une épidémie terrible d'obésité en Chine, par exemple, aux Indes, également en Afrique. Vous voyez, je crois vraiment que les exemples sont là pour montrer que le terrain génétique est uniquement un problème de terrain. On ne peut pas le nier, c'est un fait important. Mais ces mêmes populations...
Il y a un facteur sociétal qui va avec.
Ces mêmes populations deviennent obèses ou diabétiques parce que les facteurs hygiéno-diététiques, etc., les facteurs société, c'est un mal de société.
Alors je vous propose de marquer une pause, si vous voulez bien, Claudia Fiolle. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. On reviendra justement au problème de l'alimentation dans les cantines. À tout à l'heure.
Le dictionnaire du gastronome. Voici un ouvrage à déguster sans modération pour votre plus grand plaisir. Jean Vitaud, médecin bibliophile, vous présente le dictionnaire du gastronome qu'il a rédigé avec Benoît France. En expert, il évoque ce patrimoine français encore bien vivace. Le dictionnaire du gastronome, une émission au fil des pages, à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Claudia Fiolle. Claudia Fiolle, je vous propose de revenir justement sur l'obésité et le lien que l'on fait ou pas avec la restauration dans les cantines scolaires. Est-ce que l'on peut mettre en cause des excès d'apport en graisse, des excès en sel, des excès en sucre dans la consommation des repas consommés en cantine scolaire ?
Je pense qu'autrefois, oui, vous faisiez allusion à la qualité de l'alimentation servie dans les cantines il y a une trentaine ou quarante ans. À ce moment-là, il est sûr que l'on se préoccupait beaucoup moins qu'aujourd'hui de l'équilibre nutritionnel et des besoins des enfants de ce point de vue. Mais actuellement, il y a une prise de conscience des pouvoirs publics, prise de conscience des responsables, des intendants dans les établissements scolaires, des responsables des cantines, bref, de la restauration collective destinée aux enfants, qui fait qu'on s'oriente dans les cantines vers une alimentation, je crois, de très bonne qualité. Et je dirais même que c'est à la fois très contrôlé et c'est un point sur lequel les chefs d'établissement apportent beaucoup d'attention. Donc, je crois qu'on peut rassurer actuellement les parents sur la qualité de l'alimentation servie dans les cantines. Le vrai problème, c'est celui qu'on a déjà abordé, je n'y reviendrai pas trop longtemps, de savoir si cette qualité actuelle de l'alimentation dans les cantines est utile ou non pour lutter contre l'obésité infantile. Et j'ai déjà répondu, je crois, à cette question en faisant remarquer que bien faire, finalement, était une excellente chose, même si ce bien faire ne couvre pas l'alimentation de toute la journée, et d'autre part, que c'est la valeur pédagogique de cette action qui doit être mise en avant.
Alors faisons peut-être un petit écart pour nous aventurer vers les cantines scolaires qui s'orientent en partie vers le bio. Alors, le bio est-il meilleur que le reste de l'alimentation ?
Alors là, vous me tendez un traquenard, parce que le bio, il y a un aspect, je dirais, passionnel sur cette question. Et donc, je ne vous répondrai qu'en me basant sur des données purement scientifiques et en écartant tous les aspects philosophiques, biologiques, etc. Finalement, la question peut être divisée en deux. Premièrement, est-ce que l'alimentation traditionnelle que nous mangeons tous les jours hors bio est dangereuse pour la santé ? Le danger de l'alimentation traditionnelle a été surtout rattaché aux pesticides. Or, il y a divers rapports très bien établis et très documentés. Je citerai par exemple celui de l'AFSA en 2003, les études de la Direction générale de la concurrence et des prix plus récents en 2008, qui ont montré que les quantités de pesticides contenues dans les aliments traditionnels sont négligeables dans 97% des cas et pour les 3% restants ne dépassent que très peu ce qu'on appelle la limite maximum de résidus. Or, cette limite maximum de résidus est elle-même 100 fois inférieure à la dose toxique. Voilà un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'a jamais été constaté jusqu'à ce jour, il faut espérer que ça restera ainsi, de lien entre l'alimentation traditionnelle, l'alimentation classique, et l'apparition d'une pathologie. Certes, les pesticides sont des produits toxiques, ça tout le monde est d'accord. Ils sont toxiques et générateurs d'accidents lorsqu'ils sont manipulés à de très hautes concentrations par des agriculteurs imprudents qui les utilisent dans des mauvaises conditions et prennent par voie respiratoire, par exemple, ou cutanée, des doses extrêmement élevées qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui est contenu dans l'alimentation.
Mais quand on parle du bio, on pense plutôt à la saveur. On pense bien sûr à l'aspect pesticide, mais on pense aussi au goût.
Oui, alors le bio, l'agriculture biologique est un concept qui, à mon sens, et là je partage tout à fait l'avis des anglo-saxons, est respectueux de l'environnement. Et là, je ne peux qu'approuver l'agriculture biologique lorsqu'elle vise à éviter l'épuisement des sols, à respecter les haies, à éviter le déversement de produits pesticides dans les rivières, etc., etc. Là, de ce point de vue, je crois que c'est incontournable et on ne peut qu'être favorable. Par contre, l'alimentation bio en soi n'apporte finalement que peu d'avantages nutritionnels. Les apports caloriques, les apports de protéines, lipides, glucides sont exactement les mêmes que vous prenez le bio ou le non-bio. Il y a peut-être un peu plus de vitamine C dans le bio. Mais on a fait remarquer à côté de ça que l'alimentation bio a fait aussi courir quelques risques, certes mineurs. Par exemple, le développement de champignons, source de mycotoxines, puisqu'on ne traite pas les céréales par des fongicides. On a également fait remarquer que lorsque vous avez des animaux qui vont en pâture à l'extérieur, eh bien, ils peuvent brouter de l'herbe qui sera elle-même contaminée par des agents extérieurs, les dioxines, par exemple. Bref, voyez, alors maintenant, depuis le Grenelle de l'environnement, il est recommandé d'augmenter la participation du bio dans l'alimentation.
20%, 20%. Hein, c'est ce qui est demandé.
En soi, moi je ne suis pas contre. Finalement, si on réfléchit, l'alimentation traditionnelle ne fait pas courir beaucoup de risques, même je dirais des risques négligeables. Le bio, lui, ne fait pas courir grand risque non plus, hein. Donc, pourquoi pas, si ça favorise l'agriculture, une agriculture respectueuse de l'environnement. Mais il y a un problème financier aussi, c'est que le bio coûte beaucoup plus cher que l'alimentation traditionnelle. Et parfois, pour les communes, les municipalités chargées de responsables des cantines, c'est un prix à payer qui, quelquefois, est un peu lourd. Mais pourquoi pas ?
Alors, on va refermer cette parenthèse sur le bio à la cantine et on va revenir sur une des trois mesures essentielles qui pourraient être mises en œuvre à l'école pour réduire le risque d'obésité. Vous nous avez parlé donc bien sûr de la cantine et de l'école qui peuvent modifier les habitudes alimentaires, du développement de l'activité physique qui devait aussi être prise en compte. Et puis également, alors j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus, même si vous l'avez esquissé au cours de cette émission, changer le mode de vie de la famille. Comment l'école et la cantine peuvent-ils changer les modes de vie de la famille ?
Alors ça, vous soulignez quelque chose qui est capital à mon sens, c'est que finalement, il ne sert à rien aux enfants de prendre des bonnes habitudes alimentaires en cantine si ces bonnes habitudes alimentaires ne sont pas plaquées sur les habitudes familiales et sur l'alimentation familiale. Je crois qu'il y a deux leviers. Le premier, c'est le rôle que l'enfant va jouer auprès de sa famille. Vous me direz, ça dépend de la réceptivité de chaque famille à ce sujet-là. Il est certain que si la famille S'il s'agit d'une famille, par exemple, monoparentale, où la mère est très occupée, travaille du matin au soir, n'a pas le temps de cuisiner, etc., ça sera plus difficile. Et ceci rejoint le problème de la précarité.
On y reviendra.
Mais on en parlera ultérieurement. Mais dans beaucoup de cas, je suis convaincu que l'enfant peut jouer le rôle d'ambassadeur auprès de la famille pour faire passer le message qu'il aura reçu à l'école et essayer de convaincre ses parents de modifier, de mettre plus de fruits, plus de légumes, etc. Deuxièmement, il y a l'action des enseignants auprès des familles. Et là, je voudrais souligner le rôle d'un système, le rôle efficace d'un système qui est actuellement développé en France. On appelle ça le système EPOD, Ensemble prévenons l'obésité de l'enfant, qui développe ces trois actions, c'est-à-dire l'alimentation, l'exercice physique et l'action dans la famille. Mais je crois que ce système est efficace parce qu'il est bien structuré. Il faut qu'il y ait un responsable qui joue le rôle de coordinateur entre les enseignants, les enfants et la famille, organise des réunions avec les parents pour les convaincre, des journées fruits, des journées légumes, etc. Ce système EPOD a débuté il y a à peu près une vingtaine, 20-25 ans, dans le Pas-de-Calais, la Fleurbé-Laventy, et a été mis en œuvre. Et les résultats sont quand même intéressants, parce que l'on a montré qu'il y a dans ces deux villes une réduction de l'obésité infantile par rapport à d'autres villes qui n'ont pas appliqué le même système.
Une réduction conséquente,
Oui, je n'ai plus les chiffres en tête, mais enfin, il y a une diminution. Et d'autre part, il y a en France actuellement 230 communes qui ont pris le système EPOD et le mettent en œuvre, et en même temps, à l'étranger. Le système EPOD a diffusé en Belgique, au Mexique, en Espagne, en Roumanie, etc. Je pense que c'est un système dynamique et que la prise de conscience importante, c'est qu'il faut agir en trois points. Sur l'enfant, avec la cantine, avec l'exercice physique, mais également sur la famille et sur la collectivité. Il faut finalement un multipartenariat pour avoir un résultat en ce domaine et pour casser cette épidémie d'obésité et de diabète qui devient vraiment préoccupante.
Alors, vous avez parlé de précarité, du rôle de la précarité dans la famille et les risques d'obésité infantile. Je crois que vous avez quelques données, quelques chiffres justement qui peuvent étayer
cette donnée. Oui, la précarité est reconnue comme un facteur majeur, un facteur très important pour générer à la fois l'obésité et le diabète, deux maladies qui sont cousines, qui sont très proches l'une de l'autre. Et il y a pour cela de nombreuses études. Ici même en France, nous avons avec le professeur Guise, qui était un collègue de l'Académie de médecine, réalisé une étude à la région francilienne où nous avons montré que le taux de diabète, il ne s'agissait pas d'enfants mais d'adultes, le taux de diabète augmentait avec l'importance du taux de précarité. Et puis il y a d'autres études dans le monde qui ont abouti à les mêmes conclusions. Et on le comprend bien, parce que dans les familles précaires, par suite des difficultés financières, des difficultés de tous ordres, l'alimentation fera appel à des produits de moins bonne qualité, c'est-à-dire toujours pareil, trop gras, trop sucré, trop salé. Et cela explique ce développement plus important de l'obésité et du diabète dans ces milieux défavorisés. Et là, l'école peut jouer un rôle parce qu'elle va recevoir ses enfants. Ils vont bénéficier, ne serait-ce qu'au moment de la cantine de midi, de repas qui seront de meilleure qualité, qui seront... Bon. Et en même temps, il y a la possibilité, et ça a été bien démontré par exemple aux États-Unis, d'apprendre à ces familles, malgré leurs moyens financiers très limités, d'apprendre à ces familles à mieux se nourrir. À mieux se nourrir en choisissant des aliments pas forcément très chers, mais permettant un équilibre nutritionnel supérieur à celui qu'ils usent habituellement.
Alors à la question que je posais en début de cette émission, existe-t-il un lien de cause à effet entre la cantine et l'obésité infantile ? Vous nous répondez que l'école a un rôle de prévention, mais pas forcément un rôle...
Elle a un rôle de prévention qui, à mon avis, est très important.
Eh bien, je vous remercie, Claude Jaffuel, d'être venu nous parler de ce sujet. J'invite nos auditeurs à vous retrouver sur une autre émission consacrée à la consommation des produits laitiers, où on vous retrouve avec Joël Menkès, votre confrère à l'Académie de médecine. Et puis, prochainement, nous vous retrouverons pour un rapport consacré au diabète en France, et notamment dans le territoire Languedoc.
Avec plaisir.
Merci à vous, Claude Jaffuel, et à bientôt pour une prochaine émission. Merci.